BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Bonjour à tous, bienvenue dans les experts. Nouvel horaire de 9h30 à 10h30. On est ensemble pour une heure de débat, de controverses sur les sujets économiques qui font l'actualité ce matin. À commencer par les prix de l'essence. Faut-il changer d'ampleur et d'échelle pour adapter les aides au secteur professionnel, aux Français, aux automobilistes? C'est la promesse du Premier ministre qui a été faite hier devant l'Assemblée nationale, avec toujours un suivi serré des marges des distributeurs. Mais a-t-on vraiment les moyens de faire davantage que les aides ciblées qui ont été annoncées jusqu'à présent? Y a-t-il véritablement des profiteurs de crise, comme le prétendent certains? Patrick Pouyanné, le PDG de Total Energy, prévient « Si vous me taxez, j'arrête le blocage des prix ». Est-ce que la solution, au final, dans cette crise, ça ne serait pas d'électrifier massivement le pays? Christine Lagarde l'affirme, le statu quo énergétique est clairement insoutenable. On en parlera, ce sera le premier débat des experts aujourd'hui. Oui, mais pour électrifier, eh bien, il faut des terres rares. Roland Lescure, le ministre de l'économie et des finances, a annoncé hier un grand plan pour renforcer nos approvisionnements en terres rares. Évidemment, vous savez qu'on est très dépendant de la Chine. On va disséquer ensemble ce plan pour voir si on va arriver à renforcer la souveraineté française et européenne avec mes experts du jour. Et puis, marché, la tech est-elle plus forte que la guerre? Alors que le monde s'embrase, les marchés, eux, volent de record en record, et notamment dans la tech. On verra si tout cela est pérenne, est-ce bien sérieux? Ce sera le troisième débat. Et puis, quel défi pour le futur gouverneur de la Banque de France? Emmanuel Macron a officialisé hier la candidature d'Emmanuel Moulin, le secrétaire général de l'Élysée, qui vient de quitter le château. Il devrait succéder à François Villeroy de Galhau à la tête de la Banque de France le mois prochain. On verra ensemble quels sont les défis qui l'attendent à la tête de l'ancien institut d'émission monétaire. Voilà pour le programme du jour. Il est 9h passé de 33 minutes. Vous êtes en direct sur BFM Business. C'est les experts. Allez, c'est parti. Et pour discuter de ces nombreux sujets, j'ai le plaisir d'accueillir sur le plateau Roland Gillet. Bonjour Roland.
Bonjour.
Re-accueillir, parce qu'on vous a entendu déjà dans la matinale ce matin. Roland Gillet, professeur d'économie financière à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, à l'Université Libre de Bruxelles et conseiller auprès de diverses autorités publiques et privées. Merci d'être avec nous ce matin. Face à vous, Jean-Pierre Petit. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Raphaël.
Concentré déjà sur ses notes, son téléphone, et prêt à bondir sur ses différents sujets. Président des Cahiers Verts de l'économie. Et on attend d'une minute à l'autre André Le Scroog Pietri, le président de JEDI, la Joint European Disruptive Initiative. C'est la DARPA européenne en quelque sorte, pour nous parler d'innovation. Mais on va commencer tous les trois par commenter les annonces du jour sur cette crise des carburants. C'est ce qui continue de monopoliser l'actualité en France, cher Roland, probablement en Belgique aussi, j'imagine. Vous pourrez nous en toucher un mot. Le Premier ministre, Sébastien Lecornu, je vous le disais, a promis hier devant les députés qui l'interrogent chaque semaine aux questions au gouvernement, à l'Assemblée nationale. Que faites-vous au gouvernement pour aider les automobilistes qui souffrent, les secteurs qui souffrent? Hier, Sébastien Lecornu a dit, a promis de changer d'ampleur et d'échelle pour adapter les aides. Sans en dire beaucoup plus, hein, Jean-Pierre, sur quel est le montant, mais il promet de continuer à surveiller les marges. Est-ce qu'on a les moyens d'aller beaucoup plus loin par rapport à ce qui a été mis en place jusqu'à présent?
Ça dépend de comment on le finance. On a toujours on trouve toujours des moyens, soit par des économies de dépenses, soit par des hausses d'impôts, soit par, en laissant filer le déficit. Ça, c'est toujours
120 milliards de déficit cette année, je le rappelle quand même. Hein.
C'est toujours possible de l'envisager. Simplement, il n'y a pas de free lunch, donc tout ceci est un coût. S'il y a des augmentations d'impôts, quels impôts, comment, jusqu'où, provisoire, voilà. Enfin, il y a tous les débats récurrents qu'on avait déjà eu en 2022. Simplement, par rapport à 2022, on a beaucoup moins de marge de manœuvre, bien évidemment. Donc ça, c'est une évidence. Et puis, alors, il y a ce débat-là, mais il y a un débat que je trouve aussi intéressant sur la taxe sur les super profits de Total Energy.
Oui. On va y venir. Oui, on va pas y aller tout de suite. Simplement, Roland, je rappelle, vous êtes de nationalité belge. Est-ce que le débat est aussi fort en Belgique qu'il l'est en France aujourd'hui?
Un peu moins quand même, un peu moins. C'est clair que pour certains secteurs, il y a des aides qui sont déjà sur la table. Mais le fait de dire on va toucher à, pour le moment, la taxation au niveau des accises ou de la TVA sur les produits pétroliers, notamment à la pompe, ça n'est pas vraiment à l'ordre du jour, c'est plutôt des aides sectorielles. Donc pour le moment, le débat reste là.
Limité,
surtout bien entendu dans le temps. Mais vous doutez que les mêmes secteurs qui se plaignent ici, par exemple les agriculteurs, enfin les gens qui utilisent beaucoup de carboné encore, eux, les transporteurs routiers...
On peut rappeler, c'est la pêche, les agriculteurs et les transporteurs.
Donc on élargit maintenant aux grands rouleurs. Les demandes vers le gouvernement sont les mêmes, et les demandes sont parfois dirigées chez nous vers le fédéral ou le régional, sachant que chacun se pose la question, comment je vais pouvoir, comme vous l'avez très bien dit, financer tout ça, parce que c'est évidemment un coût. La seule chose, c'est que la discussion a été beaucoup en Belgique sur le fait de dire... Le supplément qui est prélevé, pas sur les actifs, mais sur la TVA, simplement dû au fait de la hausse du prix du pétrole, est-ce qu'il n'y a pas moyen quand même, celui-là, de le combler? Mais pour le moment, comme c'est compliqué, il y a eu des systèmes de cap qui a d'ailleurs été réfléchis aussi en France lors d'autres crises, ils n'ont pas encore été plus loin que de dire on n'en est pas là, on verra combien de temps ça va durer.
Donc là-bas, c'est un peu le pied sur le frein aussi,
bien sûr,
en attendant de voir effectivement
bien sûr.
Combien
et puis,
de temps.
Je dois dire quelque chose qui ne va pas vous faire plaisir, mais ça ne fait plaisir ni d'un côté ni de l'autre. On a un déficit public qui est quand même important. On est aussi dans les élèves qui dérapent au niveau de l'Europe, donc on doit faire très attention quand même, évidemment.
Oui, contrairement à ce qu'on a pu voir en Espagne, en Italie ou en Allemagne, évidemment. Est-ce qu'on a des profiteurs de crise? André Lescroug Pietri, vous venez d'arriver sur le plateau, président de JEDI, Joint European Disruptive Initiative. Je le disais, le débat ce matin, c'est Sébastien Lecornu qui promet de changer d'ampleur et d'échelle pour adapter les aides. Est-ce qu'on a les moyens et est-ce qu'on a véritablement des profiteurs de crise, on peut y aller, qu'il faudrait éventuellement taxer?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les gens n'utilisent pas moins leur voiture, les bouchons sont toujours aussi importants, d'où mon retard. Donc, vous voyez la petite
pirouette. On va devoir augmenter un peu les prix à la pompe encore.
faut venir en vélo.
Absolument, faut venir en vélo. Voilà. Mais apparemment, les gens ne le font pas. Donc, apparemment, c'est pas encore...
J'étais quand même en retard, moi aussi. En vélo.
c'est pas encore assez élevé pour que les gens renoncent à leur voiture. En fait, je pense que ce débat sur les profiteurs de crise, c'est la schizophrénie française par excellence, puisque d'un côté, il n'y a même pas trois jours, on réclame des licornes, des champions mondiaux, on se plaint de la capitalisation boursière des géants de la tech qui est 10, 20, 30 fois plus importante que celle de Total. 10 fois plus importante que celle de Total. Et après, on tape dessus dès qu'on a des champions comme ça. Alors, je ne veux pas rentrer dans le débat sur Total ou en particulier, mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ceux qui profitent de la crise, c'est l'État, qui taxe quand même le gasoil et l'essence à 70%.
Il s'en défend, il dit que la crise lui coûte beaucoup plus cher que les quelques centaines de millions de recettes supplémentaires qu'il va engranger sur la
TVA. Schizophrénie française, et deux, on va en reparler sûrement également avec les terres rares, on découvre le sujet. En 2019, l'Europe importait 60% de son énergie. En 2025, l'Europe importe toujours 60% de son énergie. Qu'avons-nous fait? Nous allons voir plein de gens qui vont avoir des plans formidables. Oui. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a un vrai sujet d'action publique qui n'anticipe pas. Et je pense que les gens auront raison de sanctionner tous les gens qui ont été depuis 20, 30, 40 ans au pouvoir.
D'ailleurs, la dépendance énergétique a même progressé depuis 35 ans.
Ouais.
Et alors, quand on passe...
Alors, on est resté à 60% sur l'importation de l'énergie.
Oui, voilà. Mais...
La dépendance énergétique a progressé?
Oui, depuis 1990. 35 ans.
Oui.
Bah, pas énormément, mais quelques points. Alors qu'on en a eu des chocs, depuis.
On en a eu, oui. Voilà. Et c'était anticipé.
Et dans les hydrocarbures, c'est plus net, évidemment, puisque là, sur le pétrole et le gaz, on est très peu producteurs. Dans l'Union Européenne, on est très peu producteurs. Il y a Norvège tout en haut, mais justement, elle fait pas partie de l'Union Européenne.
Ouais,
enfin, bon. Donc,
On va y venir.
Donc, on est en mode improvisation.
Sur la question des terres rares, notamment, qui est absolument majeure pour l'électrification massive. Je voulais qu'on vienne avant sur la réaction de Patrick Pouyanné. Cette interview dans la presse quotidienne régionale. régional où Patrick Pouyanné nous dit, les gars, moi, soit je vous capte les prix, soit je paye une surtaxe, mais je ne vais pas faire les deux. Donc, si vous décidez de me surtaxer, j'arrête d'enlever les prix. Il a raison de réagir. Ah
bah, bien sûr qu'il a raison. D'ailleurs, c'est le seul major, je crois, à plafonner les prix.
Absolument.
Au niveau mondial.
ISO, etc.
Au niveau mondial, on n'a jamais vu ça. Alors, il y a un aspect communication, mais bon, c'est la guerre, c'est pas lui qui... Enfin, voilà, donc on parle de rente, mais la vraie rente, c'est effectivement, je suis d'accord avec ce que tu as dit, c'est l'État. Qui n'a rien fait particulièrement pour encaisser ces recettes additionnelles. Alors, en plus, il y a des taxes déjà exceptionnelles sur les grandes entreprises. Oui. Donc,
le total devrait payer cette année,
en plus,
possiblement.
Alors, l'énergie, alors c'est vraiment un domaine où c'est des investissements longs, c'est des investissements lourds. Oui. On a besoin de visibilité. Donc si tu modifies la taxation tous les 3 ans en fonction des chocs géopolitiques complètement exogènes, d'ailleurs qui n'ont encore rien à voir avec le business propre de l'énergie, c'est absolument impossible. Et puis il y a le débat récurrent, évidemment, à partir de quel moment on est dans des super profits.
Mais
parce
oui.
que je voudrais juste rappeler que le prix du baril là, entre 2014 et 2020 est passé de $110 à $20 en avril 2020. Donc c'est l'un des plus forts contre-chocs pétroliers de l'histoire. Et il y en a eu d'autres. Hein. Il y en a eu celui, le célèbre de 85-86. Il y a eu celui de la fin des années 90. Je rappelle qu'en janvier 99, on était à $10 le baril. Là, on n'a pas parlé de baisse de profit, de pertes exceptionnelles. On n'a pas compensé ça par des baisses d'impôts, que je sache. Donc il faut que ça soit symétrique.
Quand ça fonctionne d'un côté, ça fonctionne de l'autre.
Mais professeur Gillet, que nous dit la science académique en matière de taxation des rentes? Les libéraux acceptent que, qu'en cas de rente temporaire, il y ait une taxation. Là, on vient de passer de $60-$70 le baril en début d'année à $120. Alors, c'est redescendu un peu aujourd'hui, on est plus autour des $110. Mais enfin, quand on double quasiment de 60 à 120, est-ce qu'il n'y a pas un effet de rente temporaire?
Mais sur toutes les matières premières et pas que sur les hydrocarbures, des entreprises ont ce problème à gérer dans un sens comme dans l'autre. Vous avez rappelé, quand c'est vers le haut, ça ne pose aucun problème de parler de surprofit. Quand ça tombe vers le bas, on ne s'inquiète pas et on dira ces sociétés font presque plus de profit. Donc c'est à la limite normal. Donc je pense qu'il faut vraiment voir ce qu'on veut par rapport à la rente. Et le monde académique ne peut pas aider beaucoup non plus là-dessus, même si on fait des études sur quelle rente et comment. Mais surtout ici, c'est même la définition de la rente. Parce qu'il se passe un choc exogène.
Et oui.
On ne sait pas combien
comment
de temps.
Comment on définit
On ne sait pas combien de temps il va durer, et on sait quand même que dans le prix qui va à la pompe, on l'a rappelé, mais ça c'est comme ça, il y a plus de la moitié qui sont des taxes, pour faire court. Donc clairement, c'est sûr qu'on peut s'interroger sur comment on peut faire pour au moins à certains moments avoir une contribution, mais je trouve que vous le dites, c'est un peu fort que ce soit celui qui fait déjà spontanément un geste, qui se retrouve pratiquement à être
parce qu'il est un des gros acteurs en France,
le plus taxé.
Donc il a raison, Patrick Pouyanné, de réagir.
Et il y a une chose aussi, pour être un peu sur le volet prix du pétrole, aujourd'hui, ce n'est pas vraiment le prix du pétrole qui fait gagner de l'argent aux grandes compagnies, où qu'elles soient dans le monde. Selon d'abord si elles ont été touchées ou non dans leur infrastructure, au niveau du détroit d'Ormuz ou dans les pays tout proches. C'est celui qui, en plus, a ramassé des caramels sur le dos qui ont détruit une partie des infrastructures, ça va lui coûter de l'argent. Mais il y en a qui n'ont pas encore, qui ont été relativement épargnés, Total en est. Mais ce qu'il faut voir, c'est surtout la volatilité des prix qui crée des profits de trading.
Oui.
Et pour le moment, c'est là qu'ils font pour le moment un profit, mais qui est un profit normal, je vais dire, dans le fait que la volatilité, ce n'est pas eux qui l'a créé. Pour le moment, c'est plutôt le président américain, par ses déclarations, c'est le fait que ces fortes volatilités qu'on n'a pas connues, souvent une volatilité vers le haut, ce n'est pas une volatilité, c'est le prix qui continue à monter. Mais ici, ça part dans tous les sens et ça permet effectivement de générer certains profits. Maintenant, est-ce qu'il faut tout de suite dire, d'autant plus que, comme on l'a rappelé, ça vient de l'extérieur et ça vient en plus de quelqu'un qui, pour le coup, est vraiment imprévisible. Donc, on ne prévoira pas plus demain qu'aujourd'hui. Vous avez vu qu'aujourd'hui, il a l'air de dire, on a même plus besoin d'encadrer les bateaux. J'ai un accord imminent avec l'Iran.
Oui, on a du mal à suivre, c'est quand même
trois jours,
confus.
Il va peut-être dire qu'il va tirer sur l'un ou l'autre bateau parce que ça ne lui convient pas. Donc clairement, ça a un effet que je crois qu'il faut rappeler, en termes d'économie financière en tous les cas, le trading est l'activité qui pour le moment permet d'afficher des résultats tels qu'ils sont. Mais on ne sait pas non plus si cette volatilité va rester.
C'est les traders qu'il va falloir taxer.
Non, mais les compagnies pétrolières aussi. Mais oui, non, mais voilà.
Jean-Pierre Petit n'est pas tout à fait d'accord.
Mais peut-être des idées là-dessus, je pense.
Mais sur la déclaration de Patrick Pouyanné, moi, ce qui me plaît particulièrement, je suis pas forcément d'affection particulière pour le personnage qui est comme il est, un petit peu brut de décoffrage, mais je trouve que dans un pays comme la France, où on commence à comprendre enfin qu'on a aujourd'hui une structure étatique, et Dieu sait que je ne suis pas un ultralibéral, qui a du mal à anticiper qui est en permanence dans la réaction, qui aujourd'hui a du mal à montrer qu'elle a de l'impact sur le monde réel, que quelqu'un ose enfin dire à un ministre et ne se couche pas, comme quand même la plupart aujourd'hui des dirigeants qui n'osent pas être beaucoup plus vindicatif et je ne veux pas dire agressif, mais je pense qu'il est essentiel aujourd'hui que nos concitoyens comprennent que l'État n'a pas la vérité absolue, est aujourd'hui assez déficient sur sa manière de faire et on a besoin de plus de Patrick Pouyanné qui en fait challenge, pour prendre un mot très macroniste, qui challenge les ministres parce que je pense...
Il y a un tango là qui se joue entre le gouvernement et Total.
Enfin, oui. Donc il faut être beaucoup plus, je pense, sur les faits. Et je pense qu'il a raison
Et ce d'autant que Total Energy joue un grand rôle dans l'investissement dans les renouvelables et dans l'électrification du monde. Là, le Cornu et le gouvernement reparlent d'électrification. C'est un processus qui a plus d'un siècle, l'électrification. Mais il s'accélère très, très nettement, évidemment.
Et on voit que c'est l'avenir. Voilà. Christine Lagarde a dit le statu quo énergétique est clairement insoutenable. C'est bien ce vers quoi, alors c'est étonnant d'entendre la présidente de la BCE s'exprimer sur l'électrification.
Oui, mais moi j'aurais aimé l'entendre. Ah, ouais, voilà. Lorsque nous sommes passés de la dépendance au gaz russe en 2022, on est passé en sautant à deux pieds joints dans la dépendance au GNL américain.
Oui.
Je veux dire, aujourd'hui, c'est véritablement, on a un zéro pointé stratégique du côté de la Commission européenne, et qui en plus revient... aujourd'hui sur le Green Deal. À nouveau, je ne suis pas un vert absolu, mais je pense que c'est incroyable de voir que ce qui devrait être une opportunité d'accélérer l'électrification, la moins grande dépendance...
C'est ce qu'on est en train de faire, André Le Spug,
oui,
Pietri...
Oui, mais quand on le fait dans l'urgence...
On attend le plan fin mai. D'électrification.
Mais le plan, il aurait dû être là depuis 3 ans, il aurait dû être là pour depuis 10 ans.
C'est un plan.
Et surtout, un plan fait dans l'urgence va coûter plus cher et on va forcément être dépendant de nos grands partenaires chinois ou américains.
Oui. Alors justement, c'est la question des terres rares. Roland Lescure a annoncé hier un grand plan pour renforcer nos approvisionnements en terres rares. Vous souhaitiez réagir d'abord, Roland?
Oui, parce que évidemment, moi l'électricité, je l'adore quand elle est vraiment faite par des énergies d'abord renouvelables ou des énergies continues ou des énergies qui permettent de l'assumer. Si c'est pour dire à un moment donné, on est obligé de faire du délestage, la France est un peu à part parce qu'elle a beaucoup encore de nucléaire, hein, parce que c'est ça qui vous sauve, et tant mieux d'ailleurs. Hein. On aurait dû penser dans mon petit pays aussi, d'ailleurs la preuve c'est que maintenant...
Ils sont en train de le faire.
Énergie pour essayer de conserver des centrales qui pourtant ne sont pas de dernière génération et qu'il va falloir sans doute mettre de l'argent pour les remettre au goût du jour. Donc, mais ce qu'il y a surtout, c'est qu'aujourd'hui, on dit électricité. Moi, ça ne me fait pas rigoler. Quand je vois arriver quelqu'un en vélo électrique dans mes Ardennes, je le vois passer à côté de moi. Avant, je le voyais passer en vélo moteur. C'est toujours un vélo moteur. Mais oui. Ici, c'est un vélo, puisqu'on l'a appelé comme ça maintenant. Et c'est sûr que pour moi, c'est magnifique. Il passe à côté de moi. D'abord, il ne fait pas de bruit, le vélo. Avant, je respirais le carburant. Et le type, en plus, n'a pas l'air fatigué. Donc, je me dis, en plus, c'est un grand sportif. Superbe. Mais quand j'apprends en plein anticyclone d'hiver qui vient faire ça dans les Ardennes, qu'il y a du brouillard et que moi je suis bien content de ne pas respirer ces gaz, il y a sans doute à un moment donné quelqu'un dans le nord de l'Allemagne qui respire de la lignite en plein anticyclone d'hiver, peu de dispersion et au moment où c'est le pire pour sa santé. Donc ça, c'est un jeu de dupes. Donc le jour où on aura de l'électricité vraiment propre, on sera d'autant plus crédible. Mais dire que l'électricité est la solution seule, non.
Alors effectivement, elle a différentes couleurs, l'électricité.
Et en plus,
si c'est des centrales à charbon, c'est vrai que c'est plus compliqué.
Et on voit le coût aussi de l'énergie, voyons-le quand même aussi, de tout ce qui est fait dans l'industrie, où le gaz, dont on parlait tout à l'heure, est encore un des grands ingrédients, parce que c'est encore moins cher de le faire sous cette voie-là. Il y a même du dumping entre les pays européens, mais si on regarde par rapport aux autres grandes zones, les Américains, n'en parlons pas, ils regorgent d'énergie carbonée et pas que. Et la Chine, elle est bien contente des conflits qu'on a avec la Russie pour obtenir moins cher, encore également une source d'énergie, voire avoir certaines énergies dans son propre sol. Donc aujourd'hui, je crois qu'il faut être clair, c'est pas l'électricité qui nous sauve, c'est comment on la produit. Bah, on est à ce moment-là,
nucléaire.
Vous l'avez dit, c'est ce que je voulais dire.
Le nucléaire, mais tout le plan de... voilà, un peu d'hydraulique. Voilà, oui, hydraulique.
Et vous avez vu que pour ça, pour la Commission, c'est un peu Emmanuel Macron qui a vraiment fait bouger les choses. J'ai jamais compris, et sans doute vous deux non plus, pourquoi, à un moment donné, on a dit « on va faire du nucléaire parce que c'est finalement pas du carboné ». Mais ça ne l'a jamais été. La vapeur d'eau qui sort d'une centrale n'a jamais été carbonée. C'est un tout petit peu un gaz à effet de serre, comme les nuages que vous avez le soir, mais c'est pas du carboné. Donc qu'on en soit là, ça veut dire que c'est plus du dogme que de la volonté. Or, on a abandonné tout.
On a une prise de conscience quand même au niveau européen.
Ah ben, il serait temps, heureusement. Mais en fait, je ne suis pas sûr que l'Allemagne est dans une volonté de créer de l'électricité tout de suite avec du nucléaire. Hein.
Mais l'Allemagne porte une très grosse responsabilité.
Voilà. Le chancelier allemand lui-même a reconnu qu'il avait été dans l'erreur, mais qu'il n'allez pas bouger d'un iota.
Absence de courage politique, alors qu'en plus les Allemands sont
terribles.
Alors que les Allemands sont relativement partagés là-dessus. Hein. Alors en ce moment, les Allemands se jettent sur la fusion parce qu'en gros, c'est le nucléaire soi-disant propre. Ça, c'est à nouveau incompétence technique totale puisque ça dégage aussi une certaine forme de radioactivité, mais évidemment beaucoup moins que la fission. Mais le chancelier Merz aujourd'hui, d'ailleurs, il est à 19% dans les sondages.
Et oui, c'est compliqué.
Que,
hein.
Mais parce qu'en fait, il n'a fait du ni-ni. Hein. C'est le en même temps, c'est-à-dire que il promettait la rupture. Il n'y a pas vraiment de rupture. Et sur les choses où on l'aurait attendu un peu courageux de dire, bah écoutez, clairement, on s'est trompé, on revient en arrière. En plus, il avait un boulevard au début. Il a dit, bah non, là-dessus, j'ose pas. Alors qu'il n'a plus les verts dans sa coalition. Donc il y a un vrai sujet aujourd'hui démocratique, c'est qu'aujourd'hui nos systèmes démocratiques n'arrivent plus à penser le long terme. Et c'est ça qui m'inquiète énormément, c'est que
vous appelez une dictature, André.
Pas du tout. C'est l'inverse, je pense. Alors au renouvellement aujourd'hui de la démocratie, parce qu'aujourd'hui, si effectivement et c'est pour ça que ce sujet sur les profiteurs de crise est terrible, parce qu'en fait les entreprises aujourd'hui qu'on attaque, c'est les seules entreprises, et je suis pas un défenseur de Total, qui en fait pensent un peu long terme. Parce que si on pense pas long terme dans les infrastructures gazières, pétrolières, là on est sûr, on est complètement et aujourd'hui de taper là-dessus, mais c'est vraiment, je trouve ça outrancier de la part des responsables politiques.
Moi, je trouve que les observateurs ont une part de responsabilité. Moi, je me souviens ici.
Ah, c'est avec la faute des médias.
Des
experts.
Des experts, parce que moi, j'ai beaucoup critiqué l'Allemagne de Merkel dès le début, parce que sa première élection de 2005, et je me souviens très bien de l'abandon du nucléaire après Fukushima, oui. De 2011. Et avec des discours complètement, où il manquait à peu près tout, hein, surtout d'un point de vue long-termiste. Et donc, de ce point de vue, Merz continue un petit peu cette politique que Scholz aussi avait continué. Enfin bref, voilà. Et donc, il y a quoi comme pays?
C'est historique en Allemagne, hein, le mouvement anti-nucléaire date quand même à plusieurs décennies derrière.
Oui, mais de temps en temps, faut faire la politique. De Gaulle faisait la distinction entre la politique des Français et la politique de la France. Voilà. Et la démocratie.
Et on peut expliquer les choses. Regardez le Japon, pays anti-nucléaire par définition à cause d'Hiroshima. Il y a même eu encore, il y a eu 2 ou 3 jours,
plusieurs dizaines de milliers.
Et évidemment de Fukushima. Il y a eu toute une réaction, parce que vraiment, pour le coup, Fukushima était une succession de défaillances, notamment de TEPCO, qui était le Tokyo Power, qui gérait c'est l'opérateur qui gérait les centrales. Et bien, malgré ça, il y a eu un vrai débat dans le pays, il y a eu un débat sur l'aspect stratégique, sur la dépendance à la Chine, ils sont en train, petit à petit, de remettre en œuvre leur... Est-ce qu'il y a eu ce débat? Je pense qu'à nouveau, je suis très critique aujourd'hui parce qu'on ne prend pas les Français pour des gens adultes. On pense, et les Allemands non plus, on pense qu'un débat pareil n'est pas possible. Alors que d'abord, il y a une base forte qui est plutôt pour, donc on part pas de rien. Et ensuite, le débat politique, le combat politique, c'est de convaincre les gens avec des arguments.
C'est ce qu'a réussi De Gaulle et Pompidou, et c'est ce qu'a réussi un pays comme la Suède. Par exemple, qui est un pays où le nucléaire...
Démocratie un peu plus mature.
Pour revenir, c'est parce que c'est un point tout à l'heure qu'on a dit avec le patron de Total. Moi, je trouve qu'effectivement, c'est très courageux et c'est pas du tout normal que ça lui tombe dessus puisqu'il avait, je le répète, fait un geste qu'il n'était pas obligé de faire au début. Mais c'est toujours dans ces moments-ci qu'on voit comment le gouvernement ou les gouvernements se sauvent un petit peu de leur responsabilité en pointant du doigt quelqu'un qui, en plus, n'est pas... je parle pour les sociétés pétrolières, les responsables du choc de départ et qui sont quand même, pour une part, autour de défis aujourd'hui qu'on leur demande d'accélérer puisqu'on ne veut plus de pétrole. Donc, il faudrait savoir si on veut qu'ils puissent avoir les moyens sans devoir demander des subsides un jour pour le faire dans des périodes pareilles, ils sont quand même tenus de pouvoir les utiliser pour faire des investissements. Mais si on sait en plus qu'ils risquent, puisqu'on ne sait pas combien de temps ça va durer et certains ont déjà été touchés par leurs infrastructures, dans les pays concernés pour le moment par la guerre, c'est sûr que c'est un mauvais message. Et c'est sûr aussi que ça les fait réfléchir. Il y a des actionnaires derrière, et c'est pas les actionnaires qui sont uniquement là pour percevoir de l'argent, mais ils sont là aussi pour apprécier des risques. Et qui dit prime de risque, le risque peut être politique. Parce que ça, c'est un risque qu'on ne prend jamais en compte. On n'imagine pas qu'à un moment donné, pour une raison exogène, l'État va changer les règles du jeu. Dans d'autres secteurs, ça ne se passe pas. Donc, pourquoi est-ce qu'il y aurait un risque de plus à un moment donné où on voudrait réduire le coût du capital des entreprises en transition, comme Total Energy, même Exxon aux États-Unis, je vais dire. Donc, clairement, on sait qu'on va vers un enjeu sociétal où je trouve que c'est malvenu, d'autant plus, je le répète, pour quelqu'un qui est courageux et qui a fait un geste spontané.
Et la capitalisation boursière de Total, 171 milliards, c'est-à-dire 30 fois moins que Apple. Et donc, oui. Aujourd'hui, je ne vois pas ça comme des profiteurs de la crise. Mais 30 oui. fois moins.
Et l'État qui va profiter, l'État qui détient 1,2 ou 3% de Total, qui va donc profiter aussi oui. de quelques centaines de millions de dividendes versés.
Et combien de temps ça va durer
cette année?
Et Jean-Pierre, il a rappelé tout à l'heure, si demain, c'est ce que disent certains prévisionnistes qui se risquent à ça, on trouve une solution définitive dans le détroit d'Hormuz, il n'est pas dit que les prix ne vont même pas tomber en dessous du prix qu'il était avant. Hein. Donc, oui, ça va mettre du temps, hein, mais ça peut
avant
arriver.
Le 28 février, il y avait plutôt un petit surplus.
Bien sûr, bien sûr.
C'est très, très difficile à déterminer un prix d'équilibre.
Vite, hein.
C'est vrai que super profit, voilà, on ne sait pas très bien.
Super profit, on oublie.
Ouais, nous, on essaye.
Bon, et okay. Le plan terre rare, c'était quand même ma question à l'origine. Allez, il nous reste deux minutes. Annoncé par Roland Discure, quelques aides, essayer de sortir de nos dépendances.
Vous avez vu
crédible
aussi,
ou pas?
Vous avez vu juste un point sur ce problème-là, c'est la Chine qui, pour le moment, même pour les terres rares qu'elle n'a pas, qui les raffine. Donc aujourd'hui, si ça ne passe pas par la Chine, on n'a pas qu'un problème sur les terres rares elles-mêmes, on a aussi la manière dont on les traite. Et c'est le plus gros, d'ailleurs, défi. Hein. Regardez les États-Unis, hein, pour le moment, ils sont le deuxième producteur de terres rares, mais elles doivent passer par la Chine. Et c'est oui. de là que la difficulté vient du gouvernement américain quand il
donc
est passé.
C'est ça le vrai sujet en réalité. Les terres rares ne sont pas rares, il y en a de partout.
Et il faut
mais qui les raffine?
Et il faut, vous voyez de nouveau, comme on cycliste tout à l'heure, qui respire la pollution du traitement?
Oui.
Parce que c'est ça, hein, c'est là que ça pollue le plus. C'est pas quand on les sort du sol. Hein.
Bon. Mais bien sûr.
Est-ce qu'on est prêt en
c'est
France?
C'est comme ça que la Chine tient les États-Unis.
Bien sûr, bien sûr.
C'est ça.
Complètement.
Toutes ces usines de raffinage qu'on a déplacées à l'extérieur.
Je rappelle, en 1998, l'usine de La Rochelle raffinait 48% des terres rares mondiales. 48% à La Rochelle. En 98.
Il y a un quart de siècle, un peu plus d'un quart de siècle, la moitié
mais comme,
des terres rares étaient raffinées.
Et ça, tout le monde le sait bien, quand on raffine des métaux, l'or, c'est bien connu, hein, on utilise des produits très toxiques, le plomb, l'arsénic, pour séparer justement ces métaux. Et ben, la même chose pour toutes les terres rares. Donc, c'est des processus extrêmement toxiques qui utilisent beaucoup de solvants, beaucoup d'eau. Il y a parfois aussi des petits rejets radioactifs dans ces processus. Et c'est pour ça que, avec une vision probablement égal à zéro, dans les 25 dernières années, on a tout envoyé en Chine et on a été ravis qu'en Mongolie intérieure, les Chinois soient pollués par ça.
Et vous voyez ça.
Aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est se dire, est-ce qu'on peut faire ça avec 10, 100 fois moins d'impact environnemental? Et les rapatrier, on peut le faire.
Voilà, je crois que c'est une belle filière.
Absolument.
Allez, on se retrouve dans une petite minute, on va parler marché-action, les marchés qui s'envolent alors que le monde s'enflamme, notamment du côté de la tech. La tech plus forte que la guerre, c'est le prochain débat. Et puis on va revenir sur les défis du prochain gouverneur de la Banque de France qui arrivera le mois prochain. À tout de suite.
BFM Business et la Tribune présentent les experts. Raphaël Legendre.
Allez, on est de retour pour la seconde partie de l'émission. Il est 10h passé de 1 minute. Vous êtes toujours en direct sur BFM Business. C'est les experts. Nouvel horaire, 9h30, 10h30. Tous les jours sur l'antenne, en direct, bien évidemment. On va parler des marchés qui s'envolent de record en record. Le monde s'embrase et les marchés regardent ailleurs. Jean-Pierre Petit. Les puces, notamment, poussent les indices ce matin. Intel et Samsung discuteraient avec Apple. Ça fait flamber Samsung, là, je vois. On est à plus 14% ce matin. Samsung qui a franchi la barre des 1000 milliards de dollars de capitalisation. Les marchés sont-ils aveugles à la grande marge du monde,
Jean? Non, je ne pense pas. Ils regardent la réalité. La réalité, alors... il faut quand même savoir que plus de 40% du S&P 500, qui est l'indice phare mondial, est est composé de valeurs tech, au sens large du terme. C'est-à-dire à la fois les semi-conducteurs, le hardware, le software, les services communication, médias.
40%,
hein, donc 40, on a même plus que ça.
Près de la moitié.
42, 43, absolument. Tech, et alors, les marchés ont atteint un point bas après quand même l'entame de la guerre d'Iran le 30 mars. Ils ont quand même baissé entre le 28 février et le 30 mars. Mais ils n'ont pas baissé énormément par rapport à ce qu'on aurait pu anticiper. Et surtout, depuis, ils ont rebondi. Alors, le S&P 500, j'ai pas regardé la cote hier, mais ça devait faire environ du 9%. Et l'essentiel des 9% est dû à la tech. Quand je dis l'essentiel, c'est la quasi-totalité. Parce que si on regarde le S&P 500 hors tech, c'est quasi, enfin, c'est presque autour de zéro. Hein, voilà. J'ai pas regardé le cours d'hier. Mais... Donc, c'est la tech. Mais il faut savoir que la tech baissait depuis fin octobre par rapport au point bas du 30 mars, alors que les résultats étaient excellents. Ce qui fait que la valorisation, n'oublions pas que la valorisation, c'est cours sur bénéfice.
Oui.
Donc la valorisation s'est effondrée, en fait. Hein. Et donc, les investisseurs, voyant que la tech n'était pas trop touchée, et puis voyant que...
Donc quand il y avait des affaires à faire, c'est ça que vous dites.
Il y avait des affaires à faire à partir du 30 mars, en fait, hein, fondamentalement, puisque la tech a largement surperformé l'indice général, et surtout l'ensemble des indices de la planète. Ah oui. Les résultats ont été très bons, alors on se méfie de ceci. Il y a toujours des doutes, quand même. Hein. C'est pour ça que ça régule bien le marché. Il y a des doutes sur la dette pour Oracle, il y a des doutes sur le flux d'investissement, parce que les perspectives d'investissement explosent à la hausse, qui va financer, c'est ça. Il y a toujours les doutes sur la monétisation d'OpenAI. Il y a des doutes sur ceci, sur la consommation d'électricité. Il y a des doutes sur la circularité, c'est-à-dire sur les liens capitalistiques et les liens financiers qu'il y a entre tous les acteurs de l'IA. Enfin, bon, oui. Bref, il y a toujours des doutes qui régulent un peu le truc. Sur Meta, par exemple, le discours de Zuckerberg n'a pas tellement convaincu. Il faut dire que en termes de cash flow, c'est pas terrible. Donc c'est sanctionné par rapport aux autres, mais les autres ont dégagé très bons résultats. Donc ils regardent la réalité.
Confiance, beaucoup de doutes, mais pourtant la confiance surpasse tout ça.
Voilà, avec une valorisation qui était moins bien. Alors attention quand même, hein, parce que perspective de bénéfice par action pour l'ensemble de la tech cette année, quand même c'est 42%. C'est supérieur à l'année dernière quand même. Donc faut un petit peu faire gaffe. Fallait jouer le rebond technique. Là, je conseillerais aux investisseurs pour ceux qui l'ont joué, bien évidemment, d'alléger un peu, de regarder un peu les trucs.
Oui. Mais voilà. Donc, on se calme. Enfin, ça tient. Parce que tout le monde pariait quand même sur un conflit court au Moyen-Orient, fin avril. Bon, on voit que ça continue. Encore ce matin, on apprend qu'un navire de CMA-CGM, qui est par ailleurs propriétaire du groupe BFM, a été victime d'une attaque. Plusieurs blessés sur le navire. Donc, on voit que le conflit est quand même loin d'être terminé. Que pensez-vous, Roland Gillet, de ces marchés qui vont de record en record ?
Ben d'abord, il faut distinguer, et vous l'avez très bien fait, la tech du marché. Le marché ne bat des records à cause de la tech, notamment. Pas que, mais notamment. Et aussi des sociétés pétrolières, notamment aux États-Unis, qui se portent évidemment, pour elles, pour le moment, très très bien. Mais globalement, ce que les investisseurs doivent voir, c'est quelqu'un qui dit quelque chose, qui annonce quelque chose et qui le réalise.
Oui.
Ben, dans la tech, c'est ce qui se passe depuis déjà longtemps. Et la rupture viendra le jour, et vous le voyez bien, alors que les marchands sanctionnent très fort celles qui ne sont pas dans ce cas-là, et pas d'ailleurs que dans la tech aujourd'hui, c'est ceux qui démontrent que une fois, on leur pardonne un petit peu, la deuxième fois, alors on leur pardonne plus du tout, c'est d'être en dessous des attentes. Ici, oui. Pour le moment, c'est l'effet contraire.
Combien les sanctions sont violentes.
Combien de gens pariaient, en dehors même de la crise iranienne, que les résultats seraient, pour Apple, ceux qui sont... Parlons même pas de ceux d'Alphabet. Ici, c'est vraiment autre chose. Quoi. On voit qu'il y a quand même...
40 milliards
ouais,
en un trimestre
d'ébit. Et n'oubliez pas non plus une Alphabet. Chose. Vous l'avez rappelé, c'est le rapport cours-bénéfice qui est important quand on regarde de façon très, je vais dire, sommaire, les marchés. Mais quand on les regarde, c'est l'actualisation
des profits à venir, bien
donc,
sûr.
Donc, clairement, des sociétés futures. De forte croissance, l'évolution des taux d'intérêt liés éventuellement à l'inflation. Et c'est ça aussi qui a créé, avec tout le monde était sur le volet maintenant, les taux d'intérêt vont remonter partout. Et c'est encore le risque d'ailleurs, par rapport aux banquiers centraux qui eux-mêmes s'interrogent sur ils vont les laisser, ils vont les remonter, ils vont devoir les baisser, enfin soit. Mais les taux longs ont quand même monté.
Oui.
Et n'oubliez pas non plus une chose, si on regarde l'Europe par rapport aux États-Unis, regardez où est le taux à 10 ans allemand, aujourd'hui autour de 3%. Aux États-Unis, on est autour de 4,5%, je vais dire.
Oui, donc, et hier donc, ou avant-hier, on était proche des 5% aussi.
Clairement, ça veut dire qu'ils partent avec, un handicap lié à des taux d'intérêt plus élevés et des anticipations d'inflation, étant donné les tarifs et ainsi de suite de Trump, qui créent l'incertitude au niveau de ce qui va se passer. Mais malgré les taux, sur la tech, le fait que maintenant, effectivement, on voit qu'il va y avoir quelqu'un comme Warsh, par exemple, ça clairement jouer aussi un rôle. Ce n'est pas un pantin
le qui futur a été président de la réserve fédérale américaine.
On peut penser qu'il va faire les choses convenablement, et je répète, de toute façon, même s'il avait été autrement, pour le moment, il y a déjà des gens qui votent plutôt pour la baisse des taux, mais ils sont largement en nombre inférieur à ce qu'il faut comme majorité pour les faire baisser. Et donc, on voit qu'on confie encore la Banque centrale, pour le moment aux États-Unis, la direction à des gens qui ont montré par le passé...
Des gens sérieux. Direction.
Oui. Et ça, ça, pour a le dire aussi, simplement. Ça a donné aussi un résultat. Et je pense que ça...
Indépendant
aussi, beaucoup. Ben, c'est ce qu'il dit en tous les cas. Hein. Alors, on sait qui l'a nommé. Mais je pense aussi qu'il a, lui, pour le coup, une vraie réputation à tenir. Et c'est pas quelqu'un qui est dans le besoin, vous avez vu.
Il rassure les marchés, en tout cas.
Oui. Et il connaît les marchés. Et il connaît la crise. Et il a bien géré un moment de la crise. Alors, je ne dis pas que c'est la solution. Je dis juste que tout ça explique pourquoi, aujourd'hui, la tech se porte très bien.
André Le Scroug Pietri, que pensez-vous de ces marchés, de cette tech qui vole de record en record?
Ce qui est assez frappant, c'est que pendant longtemps, on a considéré la tech comme plutôt dans la partie portefeuille dynamique par rapport aux actions un peu plus défensives. Et en fait, on se rend compte aujourd'hui que la tech, d'abord, elle profite évidemment de cette immense révolution de l'IA. Et j'entendais aussi depuis 1, 2, 3 mois, tout le monde prédisait, ça y est, on est dans la bulle de l'IA. Oui, il y a peut-être de la circularité, des choses...
On attend les revenus des boîtes de l'IA, c'est pour ça, c'est comment...
Sauf que quand même, tout le monde aujourd'hui est en train de voir la révolution dans les organisations. Et alors, peut-être que ça ne se transmet pas encore en termes de productivité, hein, ce qu'on avait vu pendant longtemps également.
Le paradoxe de Solow.
Voilà, mais on voit que c'est en train d'être une... C'est pas une évolution, c'est une révolution, ça c'est sûr. Et l'autre, ce qui est donc frappant, c'est qu'en fait, on se rend compte que la tech a aussi un aspect très défensif, puisqu'aujourd'hui, la tech joue sur le côté... puce souveraine, on parle de Samsung, on parle de Nvidia, on parle de TSMC. Elle joue également sur l'aspect énergie. Donc, ça sera qui fera des modèles beaucoup plus frugaux, moins... C'est ça, quand même, aujourd'hui, le critère. Et, évidemment, aujourd'hui, la tech est massivement utilisée. On l'a bien vu avec l'offensive américaine au début, fin février, projet Maven. Elle a utilisé dans le monde de la défense, les drones, les satellites, etc. Donc, en fait, ils profitent aussi massivement de cet aspect défense. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, c'est des valeurs de performance et c'est des valeurs défensives? En fait, je pense qu'elles sont un peu les deux, ce qui explique aujourd'hui que, finalement, la crise ne semble pas les toucher. Je pense que ce qui devrait vraiment nous alerter, c'est que quand on regarde, quand on fait un calcul, alors je compare flux et stock, mais la capitalisation boursière de Nvidia, plus de TSMC, plus de Samsung, c'est aujourd'hui plus que le PIB allemand.
Oui.
Et donc la déconnexion, ce qui devrait nous alerter, cette espèce d'immense déconnexion entre l'économie réelle européenne complètement sluggish, qui est complètement un peu dans les choux, qui n'avance pas, et une tech. Et donc en fait, l'écart est en train d'augmenter de manière prodigieuse, l'écart de prospérité pour chacun de nous.
C'est ce qui s'appelle une bulle, non ?
Ouais. Alors, une bulle ?
Cet écart entre l'économie réelle et...
L'écart entre l'Europe et la tech américaine. Hein.
Non, c'est pas
américano-chinoise. C'est pas ça. Je voulais pas dire que c'était une bulle. Hein. Je voulais dire que c'était l'écart entre l'Europe...
Non, mais moi, je vous pose la question. Est-ce que c'est pas ce qu'on appelle une bulle? Alors, c'est vrai qu'on a les États-Unis d'un côté, où la croissance est double,
une et l'Europe... Une bulle d'un sommet de bulle. Moi, j'ai beaucoup étudié ça. J'ai même écrit des bouquins là-dessus. C'est pas la même chose. Une bulle peut durer très longtemps. Irving Fisher annonce une bulle aux États-Unis à l'été 1926... Et elle n'éclate seulement que le 3 septembre 1929. Donc, il s'est gouré pendant un peu plus de 3 ans. Voilà. Et d'ailleurs, il l'a regretté toute sa vie parce qu'après, il a pris la porte de saloon. Enfin bon, je reviens pas là-dedans. On n'est pas sur un sommet de bulle. Moi, j'ai un modèle à partir de 10 critères à pondération fixe qui caractérise les sommets de bulle historiques de 29, de 2000, du Nikkei en 89. Et aujourd'hui, on n'est pas à 100%. Voilà. Voilà. On est assez...
On est où?
Ah!
On est où, cher Jean-Pierre Petit?
73%, pour être tout à fait.
D'accord.
Donc, il faut un peu faire gaffe.
Ça change quand même. Oui, c'est ça.
Voilà, il faut pour moi. Alors, attention quand même sur la résistance du marché action américain. Il regarde quand même la macro américaine, quand même, hein, parce que si l'économie américaine rentrait en récession, il y aurait quand même aussi un petit problème pour la tech. Or, l'économie américaine au premier trimestre, 2% rythme annualisé, elle va un peu souffrir, mais très modérément. Nous, on est à 0,6. On est au premier trimestre, en zone euro, on est à 0,6. On a une réserve fédérale. Allez, qu'on va qualifier de pragmatique, hein, en un mot, alors que la BCE s'excite pour essayer de nous faire penser qu'il faut absolument remonter les taux au mois de juin. Hein, donc, alors qu'on est proche de la récession, nous on est très plus proche, plus nettement plus proche de la récession que les États-Unis. Donc voilà, c'est ça aussi. Donc tant que la... Parce que la productivité est bonne hein, quand même aux États-Unis si tu lisses un peu. Hein, donc c'est ça aussi qui donne confiance. C'est pas seulement les résultats de la tech ou la valorisation. C'est aussi que l'environnement global macro fonctionne, résiste plutôt bien aux États-Unis, beaucoup mieux qu'en Europe.
Bon, ça nous donne un contexte particulier pour le futur gouverneur de la Banque de France. Hier, Emmanuel Macron a officialisé la nomination, en tout cas la désignation d'Emmanuel Moulin candidat à la succession de François Villeroy de Galhau à la Banque de France. Alors, c'est pas fait. Le gouverneur l'impétrant doit passer devant la commission, une commission ad hoc, en tout cas, à la fois à l'Assemblée et au Sénat. Et donc, il doit recueillir l'accord à 3/5 des parlementaires. Je continue avec vous, Jean-Pierre. Vous venez de décrire un environnement assez particulier. Quels vont être les défis pour ce futur gouverneur de la Banque de France?
Justement, on ne sait pas. Et c'est ça qui est dommageable.
L'incertitude.
Je reviens sur ce que tu disais tout à l'heure, sur l'absence de débat. On nomme un type, mais on ne sait même pas ce qu'il doit faire. Quelle est sa doctrine? J'aimerais bien savoir, par exemple, j'aimerais bien qu'il nous dise, Monsieur Moulin, je le connais pas, hein, donc je fais pas de procès d'intention, qu'il nous dise comment on va tenir au cours des prochaines années avec les taux réels tels qu'ils sont aujourd'hui pour assurer la transition énergétique, la transition numérique, la transition géopolitique, les dépenses de défense qui vont exploser, la transition démographique, puisque le vieillissement. Comment on fait?
Est-ce qu'il y a un système d'audition? Pardon.
Oui, il y a un système d'audition. Il doit être validé par l'Assemblée.
Deux commissions, Assemblée nationale et
Mais
parlementaire.
Le problème, c'est que dans les auditions, c'est pas ça qu'on lui demande. Le niveau.
C'est aussi très politique. Alors l'enjeu pour Emmanuel Moulin, qui est en campagne dorénavant, c'est que évidemment, il était secrétaire général de l'Élysée jusqu'à la semaine dernière.
C'est ça le sujet.
Emmanuel Macron a déjà nommé Monsieur Ferrand au Conseil constitutionnel. Amélie de Montchalin à la Cour des comptes et que donc oppositions...
C'est toujours la même histoire, c'est-à-dire on nomme les...
Sur les doigts.
C'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais on nomme les copains, les gens qui ont travaillé pour vous. On est dans la sphère politico-administrative. Alors, qui s'auto-promeut, qui s'auto...
Ben voilà, c'est toujours Moulin la même... est quand même issu de Bercy, a été le directeur de cabinet de Christine Lagarde.
Mais peu importe, mais ça garantit pas là. Jean-Claude Trichet a été directeur du Trésor, gouverneur de la Banque de France.
Quelle était sa politique? Directeur du Trésor.
Quelle a été sa politique monétaire en 2008 et en 2011? C'est une catastrophe. Les taux réels sont montés, l'euro est monté à un niveau totalement délirant et ça a accéléré la désindustrialisation. Vous croyez que c'est le diplôme? Vous croyez que c'est la formation initiale?
Mais c'est peut-être 25 ou 30 ans de carrière dans.
Mais c'est pas une garantie parce que ces gens-là ne risquent rien. Ces gens-là ne risquent rien, ils sont dans des casques, comme sous la monarchie, où c'était le roi qui nommait.
C'est toujours moi le plus véhément, mais je vois que Jean-Pierre est en forme ce matin.
La réalité.
Que vous posiez tout à l'heure sur l'aspect démocratique, ça c'est typiquement un renouvellement qui est absolument indispensable. On passe son temps à entendre des ministres qui disent il faut que les Français comprennent, etc. Là, on a une opportunité pour une nomination d'avoir quelqu'un qui va présenter quasiment une feuille de route, puisqu'en fait, pauvre de lui, parce qu'il arrive dans une situation épouvantable. Plus de 5% de déficit, une charge de la dette qui devient insoutenable, une pression politique, parce que ça, c'est la bonne nouvelle. Enfin, je crois, dans la population française, le sujet de la dette est devenu un sujet majeur.
Ça,
c'est quand même une nouveauté. Donc, il va avoir une pression terrible. Ça, c'est l'occasion ou jamais. Il peut même lui-même, ça serait là pour le coup, il frapperait un grand coup, de proposer que voilà, il expose sa vision. Effectivement, la crainte que j'ai, comme Jean-Pierre, c'est que peut-être qu'il en a pas, que on pense juste que parce que s'il a fait tout ça dans le passé,
qu'il a été à des postes, et donc ça le qualifie. Mais a-t-on fait
Non, mais pardon, Jean-Pierre, quand on a une expérience professionnelle, vous avez suivi la macroéconomie.
Est-ce qu'il a réussi? Ne regarde pas la suite
vous
des
avez
postes.
Donc, non, mais est-ce qu'il a réussi? Légitimité à parler
Raphaël,
du sujet.
Raphaël, est-ce qu'il a réussi dans chacun de ses postes? C'est ça que moi j'aimerais savoir. C'est pas à aligner les postes, parce que quand on est inspecteur des finances, tu le sais bien, on a accès à des postes. Et d'ailleurs, le gouverneur de la Banque de France, depuis...
Il est administrateur civil, en l'occurrence, mais pas inspecteur des finances.
Le plus souvent, il sort de l'inspection pour la Banque de France. Les grands corps de l'État ont accès à des postes systématiques. Donc, Raphaël, ce qui est important, c'est son bilan. Mais je fais pas de procès d'intention, je le connais pas. Mais regardons son bilan, déjà. Et puis surtout, regardons son projet. Ça, t'as tout à fait raison. Quel est son projet? Parce qu'on a l'impression que
les auditions vont être l'occasion de le savoir, de le développer.
On l'a jamais vu ça. On l'a jamais vu parce qu'à l'Assemblée nationale, bon, bah, je suis désolé.
Oui, mais bien sûr, les auditions politiques monétaires sont en direct, donc vous les regarderez et ce sera très probablement intéressant.
On verra si les parlementaires sont à la hauteur.
C'est selon vous, mes experts là autour de la table, quels sont les défis du prochain gouverneur? On reviendra sur la dernière lettre.
Son défi,
au président de la République de François Villeroy de Gallo,
où
il utilise des mots très intéressants, étonnants. Pour un gouverneur de banque centrale, pour un banquier central, il parle notamment de gérontocratie. On en parlera dans quelques minutes.
C'est un débat facile, ça.
Roland Gillet, l'œil extérieur à la France, peut-être moins passionné, dépassionné autour de la nomination du gouverneur de la Banque de France.
Ce jeune pays qu'est la Belgique.
Oui, ce jeune pays qu'est la Belgique. Sur BFM Business, on arrive à se passionner comme ça pour les nominations d'un gouverneur.
Oui.
Pour un banquier central, j'aime beaucoup. On vous écoute, Roland Gillet.
Le rôle est important, bien sûr, le rôle du banquier central dans chacun des pays de la zone euro, mais autant quand même, les décisions importantes au niveau de la politique monétaire se prennent par un conseil de gouverneurs qui se réunit à Francfort au sein de la BCE. Donc, je ne voudrais pas doucher les ardeurs, c'est les grosses décisions. Il faudra avoir un consensus au niveau des gouverneurs lors des réunions de la banque, ou en tous les cas au niveau, par exemple, des taux directeurs. Alors, il n'y a pas que les taux directeurs, évidemment, heureusement, dans les compétences d'une banque nationale, mais aujourd'hui, on sait quand même que les grosses compétences sont à Francfort, hein, donc il faut quand même le rappeler. Donc, même vous diriez, la France a décidé que, et elle va dire, le gouverneur a dit que, sur l'évolution des taux d'intérêt, il faudra convaincre les autres collègues. Et les problèmes d'inflation ne sont pas tout à fait les mêmes en France qu'ailleurs. Les problèmes de déficit ne sont pas les mêmes. Je viens d'un autre grand pays, l'Espagne, ne sont plus du tout les mêmes en Espagne
qu'ils
sont ici.
Ils ont fait le boulot.
Donc clairement, cette difficulté d'arriver à avoir une politique coordonnée dans des États qui ne le sont pas nécessairement en termes de politique économique, de déficit public, de la manière dont ils les adressent, va toujours être un problème. Quand on fixe les taux directeurs, on les fixe pour toute la zone euro. Et donc ici, c'est sûr que c'est très important. Et vous rappelez la manière dont ça doit être transparent, la manière dont on doit vérifier les capacités. Moi, je pense quand même que c'est important aussi, bien sûr, de voir non pas que les diplômes, mais voir également si la personne a à chaque fois eu, ou plus, le plus souvent, des succès. Et de voir aussi ce qu'elle souhaite faire au niveau de ce qui sont encore les prérogatives de chaque banquier central dans son pays. Mais sur les points importants, quand vous parliez de taux d'intérêt ou de taux d'intérêt réel et ainsi de suite, c'est des initiatives qui ne peuvent être faites qu'entre banquiers centraux responsables, ce qu'ils le sont normalement, au niveau du Conseil des gouverneurs, que les choses soient claires.
Oui, mais
aujourd'hui, si demain, étant donné la position de la France, qui s'est un peu décrédibilisée, j'entends, par rapport aux autres pays.
Oui, en termes de finances publiques.
Bien sûr, je ne suis pas sûr que c'est elle qui va pouvoir être le leader là-dessus, alors qu'elle fasse pression vu la taille de la France. Heureusement, la France est un grand pays.
Mais
c'est ça qu'il va voir. C'est comment est-ce qu'on rend à la France, via aussi son gouverneur, une action qui montre qu'on ne sera pas dans le volet qui a déçu beaucoup, c'est-à-dire de dire on a bien vu les déficits, mais on sera meilleur l'année suivante en voyant qu'il dérape encore. Et ça, c'est des éléments...
Promis, demain, on fera le boulot.
Et donc, je vous dis... Et j'ajoute quand même que dans mon pays, on a eu aussi cette tendance. Et par moment, vu la taille, la petitesse de notre pays, on était obligés, nous, de rectifier vite. Parce que la pression qui s'exerce sur un petit pays de l'Europe n'est pas la même que sur un grand qui dit, à un moment donné, c'est pas les technocrates de Bruxelles qui vont nous dire ce qu'on a à faire.
Ben oui, je voulais qu'on revienne sur la lettre au président de la République. La dernière lettre au gouverneur au président de la République, où il utilise un terme qu'on n'a pas l'habitude d'entendre dans la bouche d'un banquier central. Il liste trois défis, François Villeroy de Gallo, au prochain président de la République en réalité. C'est un, comme vous l'avez dit Roland Gillet, le rétablissement des finances publiques. Mais pourquoi ? Pour arrêter de faire porter le poids des déficits et de la dette sur les générations futures. Et deux, rétablir une forme d'équilibre entre les générations. Il parle de la France comme d'un pays gérontocratique. Oui. On n'a pas l'habitude d'entendre ça quand même. André, j'ai envie de vous entendre là-dessus. Est-ce qu'on vit en France en gérontocratie ?
Évidemment, et en plus avec... Alors déjà, il y a un aspect purement technique auquel on réfléchit peu, avec l'augmentation bienvenue de l'espérance de vie. Tous les ans, le barycentre, c'est-à-dire le poids central du corps électoral, augmente de 3 mois.
On a basculé en 2025, les plus de 50 ans sont majoritaires depuis l'année dernière dans le corps électoral. Voilà. Donc évidemment, les politiques... Voilà.
Deuxième chose, on revient sur ce sujet. Aujourd'hui, les pays qui gagnent, les entreprises qui gagnent, c'est une conviction que j'ai depuis longtemps, c'est celles qui font des grands paris. Calculés, mais des grands paris. C'est le pari du véhicule électrique en Chine, c'est le pari de la tech aux États-Unis, c'est le pari des puces à Taïwan. Aujourd'hui, en France et en Europe, on aurait du mal à voir quels sont nos grands paris. On avait le Green Deal, que dès qu'on a la première crise, boum, on est en train d'évacuer. Et forcément, les grands paris, c'est pas l'apanage des gens qui ont un certain âge, parce que votre horizon, il est plus court terme que des pays jeunes qui forcément vont investir leur avenir. Et je pense que c'est le coup de pied de l'âne, la lettre de François Villeroy de Gallo. Oui. C'est à la fois le coup de pied de l'âne au président de la République pour montrer que son grand projet de réforme des retraites, bah, ça a fait pchit. Et le coup de pied de l'âne également à notre Premier ministre qui quand même... a réussi à se maintenir parce que, bah, en fait, il a finalement complètement fait des concessions.
Lâché sur tous les efforts. Ça...
Et donc je pense que c'est... Oui, peut-être que ça peut sembler anecdotique, mais je pense que c'est aujourd'hui le vrai sujet. Et ça ne va que nous... En fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que si on ne s'adresse pas à ce sujet avec du courage politique et qu'on l'explique, eh bien, on va faire le lit des extrêmes.
Non, mais
et qu'on ne se sortira pas des finances publiques si on change pas ça radicalement.
Non, mais faut qu'ils disent comment on le fait, parce que je veux dire.
Oui, c'est facile.
Assez dire les finances publiques, ça, dans toutes les lettres des gouverneurs, ils disent, mais il faut juste dire comment, exactement, voilà, c'est tout. Quant à la lutte intergénérationnelle, il faut qu'ils disent comment on va lutter. C'est en augmentant les taux d'emploi à tous les âges de la vie, et notamment aux âges seniors, c'est tout.
Voilà. C'est son troisième défi, hein, c'est le défi de l'emploi et de la qualité de l'emploi.
Voilà, c'est
tout, ça suffit. Plus longtemps.
Mais je veux juste revenir avant, parce que c'est pas.
Sur le sujet de l'âge de la retraite.
Le problème de la Banque Centrale, c'est pas un problème seulement de coordination entre les intérêts. Il y a un problème européen, qui est le niveau des taux réels, qui est trop élevé par rapport... Voilà,
mais je suis bien d'accord.
Il faut s'attaquer à ça, il faut qu'Emmanuel Moulin le dise à Madame Schnabel.
Oui,
parce que c'est elle la plus virulente.
Vous avez vu qu'il y a trois ou quatre membres du board hier qui ont dit qu'il fallait augmenter les taux. Hein.
Mais quand vous dites ça, parce que ça, vous avez entièrement raison, ça se décidera quand même à Francfort, et ça se décidera entre ces deux-là. Ça se décidera par un vote avec le nombre de pays.
Je suis d'accord.
Chacun y est, et c'est celui qui aura la majorité. Et il y en a un qui va rentrer frustré dans son pays en disant moi j'aurais voulu des taux plus bas, et moi j'aurais voulu des taux plus haut.
Oui, mais est-ce que
c'est ça aussi qui ne va pas? Parce que mais imaginez que ce que vous dites est juste, et c'est vrai que c'est correct par le côté, il faut bien entendu pouvoir avoir quelqu'un qui porte le message, mais il n'en reste pas moins que vu les disparités entre les pays, qu'elles soient au niveau fiscal ou autre, même si vous vouliez vous accorder aujourd'hui à dire voilà le meilleur taux optimal, il y en a qui vont sortir gagnants, il y en a qui vont sortir perdants, parce que la situation économique n'est pas du tout la même et n'impose pas les mêmes taux d'intérêt réels. Et ça, cette coordination est importante.
Il faut quand même un discours politique européen, comme Mario Draghi l'a eu.
Est-ce
que j'aimerais, puisque Raphaël a demandé quel est le principal défi d'Emmanuel Moulin, c'est de dire ça.
Et de porter la voix de Jean-Pierre Petit à Francfort.
Et de se confronter à Madame Schnabel. Parce que s'il ne se confronte pas, il tient un discours policé, comme d'habitude.
Il y a un aspect leadership qui est essentiel.
Et
c'est ça que les parlementaires doivent tester pendant ces auditions.
Pardon de revenir au sujet de la discussion qui est celle de la gérontocratie en France.
Mais il y a deux points pour moi qui sont importants. C'est, et André l'a dit, c'est on se rend compte que ça augmente de 3 mois chaque. Oui. Mais qu'est-ce que c'est? Finalement, on a un ARP avec effectivement l'âge des gens. On sait, c'est d'ailleurs au niveau des retraites, un des enjeux qui est le plus prévisible si on accepte les gens qui nous rejoignent ou les gens qui nous quittent. On sait où on va. Donc là, forcément, on sait qu'on va nécessairement être dans beaucoup de
pays, vieillissement de la population. Problèmes.
Un deuxième élément, c'est qu'il existe des zones géographiques qui n'ont pas le même problème pour une seule unique raison. Et regardez un peu ce que ça soulage. Alors, je n'ai pas dit que c'était bien, je vous dis juste que ça soulage le gouvernement américain ou le gouvernement hollandais. C'est quand vous avez un système de pension qui fonctionne par capitalisation, vous n'avez pas ce problème sur le dos. Et au contraire, si la bourse passe bien, vous donnez du pouvoir d'achat à des gens parce que leur argent a été bien placé et a généré des profits qu'ils vont pouvoir aujourd'hui utiliser. Et beaucoup de gens ne comprennent pas aux États-Unis, à tort ou à raison, on ne parle pas de Donald Trump, on parle de façon générale, pourquoi des gens sont si sensibles parfois au milieu d'une petite ferme au milieu des États-Unis,
activité économique.
Ils sont agriculteurs parce qu'ils voient qu'ils gagnent parfois plus avec l'action qui est menée dans la croissance de leur économie, parce qu'ils en récoltent une bonne partie aussi dans leur fonds de pension. Et donc, clairement, ici, on a d'autant plus un débat important au niveau européen qu'on est essentiellement sur des systèmes de répartition avec des assurances complémentaires éventuellement, mais en tous les cas, sur les régimes traditionnels, que n'ont pas d'autres pays. Et un dernier point que je voudrais souligner, qui, moi, me paraît important, et de nouveau, vous l'aviez dit, tous les deux au niveau de la France et au niveau des autres pays dans la politique industrielle, on est quand même capable, quand on fait les choses ensemble, d'avoir un Airbus aujourd'hui qui a reçu moins d'argent public que n'a reçu Boeing dans le temps et qui est un vrai concurrent. Donc on a quand même des capacités si on se met ensemble.
Allez.
Je pense que c'est très important de le rappeler.
Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les trois, Roland Gillet, André Lescroux-Pietri et Jean-Pierre Petit pour cette émission passionnante disponible en podcast et replay sur toutes les plateformes, sur l'application BFM Business. Bien sûr, tout de suite, c'est BFM Entreprise spécial outils RH animé par Sandra Gondouin. Quant à nous, on se retrouve demain, même heure, nouvel horaire, 9h30, 10h30, même endroit par contre, toujours l'antenne de BFM Business. Très bonne journée à toutes et à tous, à demain.
Les experts, débats et controverses sur BFM Business.